Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Carolina, plus connue sous le nom de La Carologie sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment envie de recevoir Carolina sur le podcast, car c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail et la prise de parole sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, Carolina nous partage ce qui l'a poussée à créer sa chaîne YouTube, comment elle souhaite utiliser sa plateforme et sa voix pour essayer de faire bouger les choses. Carolina nous partage aussi son propre parcours et la déconstruction qu'elle a dû entamer pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, en adéquation avec ses valeurs profondes. C'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois avec vous et qu'on a creusé vraiment avec Carolina, celui de la nécessité de se séparer des personnes toxiques de notre entourage, même s'ils sont très proches de nous. Comment s'affirmer par rapport à sa famille, comment réussir à se trouver et à se construire, autant personnellement que professionnellement, ce sont autant de sujets qu'on aborde dans cet épisode extrêmement enrichissant et instructif, où Carolina nous en apprend aussi beaucoup sur des sujets sociétaux qui méritent d'être mis sous la lumière, comme la défense des minorités, la question des privilèges, la construction du genre et bien d'autres sujets encore. Si vous écoutez In Power et que vous appréciez ces échanges, vous pouvez me laisser quelques lignes sur Apple Podcasts sur pourquoi vous appréciez l'écouter et quel épisode vous avez préféré par exemple, pour que je puisse le voir et vous proposer des épisodes toujours plus enrichissants. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Carolina. Écoute, bienvenue Carolina, je suis ravie de t'accueillir sur In Power aujourd'hui. Je suis à Genève chez Carolina.
Dans mon petit studio.
Ouais, non, attends, c'est un peu plus grand qu'un studio, je trouve, non?
C'est considéré quand même comme un studio.
C'est considéré comme un studio, je suis très nulle dans ces trucs d'immobilier et tout.
Moi, en gros, c'est une pièce, donc
ouais,
c'est un studio.
Mais très grande. Ouais. Du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, ou en tout cas veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon que tu préfères?
Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Carolina, j'ai commencé mes vidéos il y a 4 ans parce que je regardais beaucoup de gens qui faisaient ce contenu et puis parce que j'avais envie d'un peu de faire pareil, mais à ma sauce, quoi. En 4 ans, mon travail a énormément évolué et puis ma vie, de manière générale aussi, puisque maintenant je suis aussi à la fac depuis 2 ans, là je suis en deuxième année en sociologie à l'université de Genève et franchement ça me plaît beaucoup et c'est marrant parce que ça se complète un petit peu avec ce que je fais sur ma chaîne du coup.
Ouais.
Et sinon, je sais pas trop comment me définir, si ce n'est comme une personne qui passe sa vie à se remettre en question, peut-être parfois un peu trop, et qui est constamment dans la volonté de se déconstruire le plus possible, en fait, parce que j'essaye toujours de trouver des nouvelles manières de voir les choses et d'appréhender le monde, même si j'ai... au bout d'un moment, tu finis par te poser, disons, hein, genre, parce que sinon, t'as jamais d'avis sur rien, tu vois.
Ouais.
Mais c'est vrai que je suis toujours dans cette optique d'apprendre le plus possible, du plus de points de vue possible au monde, de les comprendre, et voilà, et d'après me faire mes propres opinions.
Et d'où ça te vient, tu penses, cette volonté de te remettre sans cesse en question, parce que pour moi, c'est limite une difficulté qu'ont beaucoup de personnes. Mm-hmm. Donc, c'est trop cool, tu vois, que toi, ce soit assez naturel, mais... Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as eu, ce rapport à la remise en question?
Écoute, je pense que la naissance de ce mécanisme n'est pas très joyeuse, parce qu'à mon avis, ça vient de mon enfance et des difficultés que j'avais avec ma famille. Parce que j'étais dans un environnement où, concrètement, j'avais pas le droit de remettre quoi que ce soit en question. Et ça me faisait beaucoup souffrir. Et je pense que c'est un peu de là que ça m'est venu, le fait de me dire que... je voulais sortir un peu de ce schéma qui était très restreint et qui étriquait vraiment ma pensée, dans le sens où je me rendais compte qu'en fait c'est comme si j'avais pas vraiment le droit d'avoir un avis propre, de contester l'avis de mes parents notamment, ou de juste avoir une autre opinion sur les choses. Et comme avec mes parents on a, disons, un écart de valeur assez monumental, c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert de ce truc où j'ai pas le droit de les remettre en question, disons. Et donc, après, progressivement, dans ma vie, en dehors de la famille, j'ai commencé à essayer de toujours voir plus loin, et pouvoir m'épanouir dans cette pensée-là que je pouvais pas avoir chez moi.
Ouais.
Et maintenant, c'est bon. Genre, disons qu'il y a eu un moment où, pour finir, le cadre familial, comptait plus trop, dans le sens où, au bout d'un moment, mes parents, ils se sont juste dit... bon, ok, il n'y a plus rien à faire, quoi. Elle a ses opinions, on ne peut pas les changer. Et qui ont commencé à se rendre compte qu'en fait, ben, c'était pas juste que je voulais contredire pour contredire ou que j'étais juste en train de criser.
L'excuse de la crise d'ado, ouais.
Alors que non, et que c'est juste que fondamentalement, on a des valeurs très différentes et une vision des choses qui ne se ressemblent pas. Et ça n'empêche pas de pouvoir avoir des relations quand même entre nous, quoi. Mais... Je pense que c'est vraiment, ça a commencé à ce moment-là, ouais. Parce que c'était assez, assez hardcore, disons.
C'est devenu nécessaire pour toi
Mais c'est presque vital, d'aller... en fait, pour moi, d'être dans cette optique de ne pas rester sur les acquis, quoi.
Mm-hmm. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de te construire, au final? Parce que je sais que parfois, quand je parle de déconstruction... sociale, du fait que moi aussi j'ai dû beaucoup déconstruire ce qu'on m'avait inculqué, les gens me disent qu'ils sont assez perdus, qu'ils savent pas comment faire, par où commencer. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Bah, c'est assez déroutant, c'est vrai, quand tu commences un peu à casser la coquille des normes sociales, que tu te rends compte qu'en fait, qui t'ont inculqué tes parents, même l'école, les médias, tout ça, bah, que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste et ce qu'il y a de plus authentique, et ben on est confronté à une sorte de montagne gigantesque à décroter, quoi. Genre, c'est vraiment ça, c'est que au début
faut nettoyer, quoi.
Ouais, voilà, et puis c'est assez hallucinant parce que il suffit déjà, genre, si on prend juste disons une branche du problème, si on parle du sexisme, moi j'ai commencé à m'interroger sur le sexisme à travers un travail que j'ai fait à l'école quand j'avais 18 ans. Et ben il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai appris l'existence de cette discrimination et le moment où j'ai vraiment compris à quel point ça allait loin. Parce que pendant un gros laps de temps, c'était comme si j'avais vu une partie, je me suis dit « Ah ok, mais je voulais quand même pas aller dans, tu sais, la peur de devenir radicale, ouais. D'être vue comme une extrémiste. Ouais. » Et de se rendre compte qu'en fait, si t'es d'accord avec cette nouvelle perception, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, ok, je découvre l'existence d'une discrimination, je me rends compte que je la subis, je suis pas d'accord avec ça. Tiens, je suis entourée de plein de gens qui exercent ça, je suis pas d'accord avec eux, est-ce que je dois m'éloigner d'eux? Est-ce que je dois leur en parler? Mais du coup, je vais passer pour une chieuse. Est-ce que je dois tolérer ça dans ma famille? Parce que du coup, dans ma famille, peut-être qu'ils sont aussi comme ça. » Et en fait, ça commence à... ça touche un peu tous les domaines de ta vie parce que tu te rends compte que... Ben, jusqu'à ce moment-là, vu que tu n'y as jamais pensé, bah, peut-être que tu n'as jamais fait attention à ces choses. Et puis, une fois que tu les vois, eh ben, elles sont présentes partout.
Ouais, tu ne peux plus faire semblant.
Et voilà. Et du coup, des fois, on peut être un peu sur la réticence de se dire « Ah non, je ne vais pas plus loin. » Et donc, de croire qu'en fait, on est déconstruit là-dessus, alors que pas du tout. C'est juste qu'on a vu le point de l'iceberg et on se dit qu'on a tout compris. Alors qu'en fait, si on regarde sous l'eau, là, on se rend compte que si on veut vraiment... être en cohérence avec notre nouvelle manière de voir les choses, il faudra impliquer des changements dans la vie de tous les jours. Donc je pense que déjà la première chose, c'est d'être préparé à l'idée que oui, notre entourage peut ne pas forcément suivre ce qu'on pense, et que non, les gens ne sont pas complètement fermés et ignorants, qu'on peut très bien, à travers des discussions, de la patience, des expériences, réussir à petit à petit essayer de se mettre d'accord. Par exemple, je sais pas si t'as des amis qui sont ultra homophobes et que tu te déconstruis sur l'homophobie.
Non, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même je pourrais pas en fait être amie avec des homophobes, tu
vois. Mais dans le sens où quand tu t'as pas conscience de l'homophobie de la société, tu peux être entouré de gens qui le sont, ou tu as pu l'être toi-même, ce qui est normal dans la mesure où si tu évolues dans une société qui est discriminante, oui, tu vas être imprégné par ça. Ça veut pas dire que tu t'es obligé de penser comme ça, mais forcément tu vas être un peu moulé dans ce truc. Et donc il y a un moment où quand tu commences à te rendre compte, tiens, en fait ça c'est homophobe, ça c'est violent, ça c'est une agression, etc., et puis que t'avais pas pensé à ça avant, ok, le changement il s'opère en toi dans ta perception des choses, mais du coup ça veut dire qu'il y a des gens qui jusque là étaient proches de toi ont peut-être jamais remis ça en question, vois. Et même si on veut pas à la base être, je pense que personne veut se dire mes amis sont homophobes, mes amis sont racistes, ou moi-même, parce que nous aussi en fait, à partir du moment où on se déconstruit, c'est bien parce qu'on a été construit avant, tu vois. Et je pense que la difficulté c'est de se rendre compte que parfois il y a des trucs qui vont plus passer avec des potes, plus passer avec la famille, ou même nous-mêmes, des trucs sur lesquels on va se surprendre à se dire, mais en fait, je veux plus penser ça, quoi.
Ouais. Moi, c'était plus pour la grossophobie, tu vois, typique.
Mm-hmm.
C'est vrai que quand j'étais plus jeune, ayant eu des parents grossophobes et beaucoup de personnes de mon entourage aussi, et c'est, enfin, tu vois, en fait, le terme, les gens ont toujours peur de s'associer à un terme, tu vois, qu'il soit positif ou négatif, vu que malheureusement, c'est aussi le cas avec le féminisme. Des gens ont peur de dire qu'ils sont féministes, alors que c'est très normal et naturel de vouloir l'égalité des droits. Les gens vont se dire, mais non, je suis pas du tout grossophobe, mais c'est des personnes qui vont dire, putain, le gros lard devant, tu vois. Et en fait, ça, c'est de la grossophobie. Et moi, ce que j'ai réalisé, comme tu dis, c'est que pour moi, la discrimination est très banalisée, que ce soit au niveau du sexisme ordinaire, de la grossophobie ordinaire. Et c'est là où moi, j'essaie vraiment de reprendre les gens. Et tu vois, c'est marrant, je crois que je voulais te le dire en plus en arrivant, mais j'ai oublié. Bah, du coup, tu sais, j'ai fait un blablacar pour venir à Genève. Et donc, j'étais avec trois autres femmes dans la voiture. Et alors, pour tout vous dire, hein, je sais pas, il y avait peut-être Pookie d'Aya Nakamura qui passait à la radio. Et il y a une des filles qui dit c'est qui? Je connais pas. Et donc, nous qui disons, ah bah, c'est Aya Nakamura, elle dit qui ça et tout. Et donc, une des filles qui montre à une autre fille une photo d'Aya Nakamura sur Google. Et direct, elle dit, ah, mais elle est dégueulasse, on dirait un homme. Alors, déjà, premier truc qui me dérange beaucoup. Elle regarde d'autres photos, elle fait, putain, mais c'est pas possible, on dirait un trans. Et en fait, j'étais là, waouh, la transophobie, tu vois, typique, je pense que c'est quelque chose de très banalisé, très ordinaire.
Comme et si c'était une insulte.
Voilà, en fait, vraiment, et en fait, moi-même, j'étais limite assez fière de moi de me rendre compte qu'aujourd'hui, ça me dérangeait beaucoup, quand je pense qu'il y a 4 ans, j'aurais rigolé aussi, tu vois.
Ouais, bien sûr.
De dire, putain, grave. Ouais. Alors que de me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est hyper dérangeant de me dire, bah, peut-être que si je peux aider une personne à se rendre compte que ses propos bah, sont discriminants et qu'elle le fera peut-être plus après, ça vaut le coup, tu vois.
Mais
voilà, moi, c'est plus le côté, en fait, c'est partout, c'est tout le temps, qui m'a... Ouais, quand tu dis, une fois que t'en prends conscience, comme tu dis, tu te rends compte à quel point c'est banalisé, quoi.
C'est ça, et puis après, forcément, ça implique bah, de devoir interroger son entourage aussi, et bah, moi, ça a pas raté, hein. Il y a plein de gens de qui j'ai dû m'éloigner parce qu'ils trouvaient que j'étais beaucoup trop radicale. Après, je pense que... Un peu comme tout le monde, quand on commence à être dans une démarche un peu militante et qu'on a envie de changer les choses et d'avoir un impact, en fait, forcément, il faut d'abord changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puis notre entourage. Et parfois, il y a des sentiments de colère très violents parce qu'on sent l'injustice, en fait. C'est comme si tout d'un coup, voilà, ça allait très très vite. Genre, on apprend ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Enfin, et on se rend compte que c'est une sorte de boule de neige géante qui n'arrête pas de grandir. Et puis, du coup, forcément, ça ne crée pas toujours des émotions très positives. On a envie un peu de se révolter contre tout le monde. Et on vit dans une colère un peu constante. Moi, ça a été mon cas. Et du coup, c'est vrai que je peux comprendre que parfois, oui, on a trouvé que j'étais... particulièrement véhémente ou virulente et que j'étais intolérante ou ce genre de choses. Maintenant, je pense que j'arrive plus à faire la part des choses dans le sens où j'arrive à utiliser cette colère et cette fameuse virulence, entre guillemets, dans les moments où c'est mérité, disons. Genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui va me dire un truc hyper insultant ouvertement, bah, j'ai pas de pitié, quoi. Genre, je vais le reprendre et je vais le remettre à sa place. Ouais. Et puis, j'ai vraiment aucun mal avec ça. Et je peux avoir l'air très... très violente ou quoi que ce soit, mais en fait, ce sera jamais plus violent que ce qu'on m'a fait.
Ouais.
Si je pense là, typiquement, à un mec qui a essayé de m'embrasser de force et puis qui a commencé à m'insulter et à dire que, en gros, il allait me saigner. Voilà, enfin, il a commencé. Enfin, là, dans ce cas-là, j'ai plus aucun mal. Donc voilà. Et j'arrive à faire la différence entre des situations où vraiment je peux utiliser cette colère dans ce but-là et les moments où en fait je patauge, quoi, parce que je suis face à des gens qui en fait en ont rien à foutre, qui sont juste là pour m'énerver et puis que je passe moi des heures à essayer de leur expliquer un truc dont ils se foutent et qu'en fait ils jouissent de voir mon énervement. Et je pense que c'est ça qui est dur à faire, c'est de se rendre compte que des fois ça vaut juste pas la peine, quoi.
Ouais.
Genre il y a des gens avec qui ça vaut juste pas la peine d'essayer de les convaincre.
Ouais.
Et que bah malheureusement, si c'est des proches à nous, bah, parfois les valeurs elles sont trop différentes pour qu'on puisse continuer d'avoir une relation normale.
Ouais.
Parce que, ok, je peux t'aimer sur plein d'autres points,
ouais.
Mais si sur ça on n'arrive pas à s'entendre, je suis désolée, pour moi c'est trop important, ouais. Je suis pas d'accord.
Je suis totalement d'accord. Ouais. Et ça a été difficile pour toi de couper les ponts avec certaines personnes de ta famille, parce qu'on en parlait dans les vidéos qu'on a fait sur YouTube, que je mettrai aussi dans les notes du podcast, mais du coup, t'as aussi fait le tri dans ton entourage proche, et comme on disait dans la vidéo qu'on a tournée, c'est beaucoup plus difficile. En fait, parce qu'on a l'impression que on nous répète sans cesse que la famille c'est sacré, que on doit toujours pardonner, et que en fait, ben non, c'est des personnes de ta famille certes, mais si vraiment il y a des aspects, des valeurs qui sont hyper divergentes, bah en fait c'est comme sur les réseaux ou des proches, des amis, il faut savoir couper les personnes toxiques de sa vie, quoi.
C'est pas parce que les gens ils font partie de ta famille que faut les suivre dans tout et tolérer tout. Et puis oui, avec ma famille j'ai eu beaucoup de clash à ce propos. Après disons, selon si t'es avec ma mère ou mon père, c'était pas sur les mêmes points. Les problèmes que j'avais avec ma mère, c'était plutôt le côté Tu sais, quand j'ai arrêté de m'épiler, de porter des soutiens-gorge, de me maquiller et tout, elle le vivait très mal parce qu'en fait, elle était dans cette optique de dire « Moi, j'ai eu une petite fille qui devient une femme et pour moi, t'es pas en train d'agir comme une vraie femme. » Et donc, elle, ça lui posait beaucoup de problèmes. Sachant que, faut savoir que ma mère est d'origine colombienne, elle a vécu là-bas jusqu'à à peu près 30 ans. Et puis là-bas, c'est vrai qu'il y a aussi, en tout cas de là où on vient, c'est encore Enfin, le genre est poussé un peu à son extrême dans le sens où voilà, les filles sont un peu... Enfin, même pas un peu, elles sont carrément sous l'injonction d'être ultra féminines et les mecs ultra masculins. Alors, c'est le cas dans toutes les cultures du monde, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est plus marqué que d'autres, disons. Et c'est vrai que, par exemple, là, quand j'étais en Colombie l'été passé, je me suis sentie obligée de m'épiler pour aller voir ma famille parce que je savais que c'était beaucoup trop perturbant pour eux, là-bas, de me voir avec mes poils. Pour eux, c'était vraiment...
En affront,
Et puis ma mère, par extension, quoi. Et du coup, forcément, avec elle, j'ai eu des clashs par rapport à ça, parce que pour elle, c'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop hors norme. Alors qu'en fait, tu me vois, mais j'ai rien de hors norme. Enfin, je veux dire, je me fonds dans la masse comme tout le monde.
Ouais.
Quoi,
genre, plus, j'ai envie de te dire, même si c'était pas le cas, en quoi ça devrait être dérangeant?
On est d'accord.
Ouais,
on est
moi, j'ai vraiment cette réflexion maintenant de... Pourquoi la différence dérange autant? Pourquoi quelqu'un qui va être habillé en couleur flashy dans la rue, on va le regarder de tête en, de haut en bas et on va se foutre de sa gueule, on va, tu vois?
Même son physique qui est pas comme celui de tout le monde.
Ouais. Ça, tu vois cette volonté de rentrer dans le moule à tout prix que je trouve dérangeant parce que c'est pas sain. Les personnes qui sont différentes du coup sont beaucoup plus de mal à s'intégrer et à être épanouies. Et en fait, vraiment, putain, la différence c'est une richesse quoi.
Ce serait
hyper chiant si on se ressemblait tous.
Ben totalement, et puis du coup forcément là je te dis justement, moi je me fonds dans la masse dans le sens où c'est vrai que quand je parle de ce que je fais, de ce que, enfin les gens s'imaginent un truc incroyable qu'en fait non, et puis c'est tout à fait vrai, même si je me démarquais de tout le monde, so what,
c'est pas
grave quoi, genre je fais du mal à personne et
enfin, au contraire, peut-être les gens.
Voilà, et puis avec ma maman, du coup, c'était un peu compliqué. Il y a eu des gros clashs entre nous, mais jamais au point que vraiment je me dise j'ai plus envie d'avoir de relation avec toi. Par contre, avec mon père, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué parce qu'on a 50 ans d'écart. C'est-à-dire qu'on a un conflit générationnel très violent. Mon père, il a grandi dans une Espagne post-franquiste, juste après la guerre, tout ça. Donc, il est vraiment dans un autre monde que moi, disons, en termes de valeurs. Et si tu veux, pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai lutté, parce qu'en fait, j'essayais de me dire si j'ai des arguments rationnels à lui donner, il va finir par être d'accord avec moi. Sur le fait de se dire que non, c'est hyper violent de dire ce qu'il dit, que ce soit en termes couleur de peau, de poids, d'handicap, de sexisme, de tout ce que tu veux en fait. Genre en fait, mon père, si tu veux, c'est un peu... Alors je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur, mais voilà, selon le contexte dans lequel il a évolué, l'âge qu'il a et le statut social qu'il a, ben, en fait, c'est pas étonnant qu'il ait cette manière de penser. Ça veut pas dire que tous les hommes comme lui pensent comme lui, mais disons que c'est pas, enfin ça fait sens quoi, entre guillemets.
C'est un environnement qui était pas.
Enfin voilà, il a grandi constamment dans ce truc, et puis en fait, je me rendais pas compte, mais moi en fait, mon père, c'est pas après 50 ans que je vais révolutionner ses valeurs en fait.
C'est hyper dur, moi je le vois avec mon papy que j'adore, mais tu peux pas le faire changer d'avis.
Et t'as beau, et moi j'ai eu du mal à comprendre ça, mais ça se compte en années quoi, c'est-à-dire que moi c'était une lutte perpétuelle avec mon père à essayer de le convaincre qu'en fait. Ce qu'il disait, ça pouvait être offensant, blessant, et même pour moi, genre, j'étais la première cible en fait de plein de trucs. Et pour finir, ça a entraîné évidemment d'autres problèmes sur d'autres plans. Hein. C'était pas juste le côté sociologique de la chose. Il y avait des problèmes en termes de réaction, les émotions entre nous. Enfin bon, voilà, des trucs qui sont beaucoup plus personnels. Mais entremêlés à ce conflit de valeurs, ça fait que forcément, au bout d'un moment, ça pétait. C'était tout le temps comme ça. C'était une souffrance perpétuelle. On se faisait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit stop à la relation. Et c'était intéressant d'ailleurs. Il y a moins d'un an, je me suis coupée de lui pendant presque une année. Parce qu'en fait, je supportais plus d'entendre des trucs comme ça. Et maintenant, on se reparle et ça va mieux. Mais du coup, on sait très bien qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Et lui, je crois qu'avec ça, il a compris qu'en fait, mes valeurs, elles n'étaient pas à remettre en question pour moi. Dans le sens où, ça ne veut pas dire que je ne me remets jamais en question. Comme j'ai dit au début de...
Voilà,
ça veut juste dire qu'il y a des trucs sur lesquels je ne vais pas changer d'avis et que ça ne sert plus à rien qu'il essaye de... comme moi à l'époque, lui, il essaye de me dire que je devrais un peu revoir mes choses. Quoi.
Mais tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait. C'est à quel point on peut accepter quelqu'un d'autre qui a des valeurs très opposées aux nôtres, tu vois. C'est que là, on en revient au fait que c'est ton père, donc tu bah, continues,
l'aime, quoi,
voilà,
genre,
tu l'aimes. Donc c'est l'amour qui vous lie.
Ouais.
Et je crois que c'est un peu le seul schéma, en fait, où, ben, en fait, même des personnes qui ont des valeurs très différentes des nôtres, on va réussir à peut-être avoir un minimum de relations avec, par amour, mais j'ai envie de dire, quand même, toutes les autres, faut pas se forcer, quoi. Et même dans ton cas, faut pas se forcer. Genre, si pour toi, c'était trop dur d'avoir une relation avec lui, voilà, t'as bien fait de couper, et c'est pas parce que c'est ton père que tu devais te forcer, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des personnes qui nous écoutent, qui se rendent compte que soit leur partenaire, soit certaines de leurs amis ou certains de leurs amis ont des valeurs très différentes des leurs, mais restent amis parce que ça fait longtemps qu'on est amis ou quoi. Moi, j'essaie vraiment de partager le message de il n'y a rien qui vous lie à vie avec une personne, quoi. Si il y a des comportements qui deviennent trop dérangeants pour vous, bah juste, voilà, il faut savoir se tourner vers des personnes plus bienveillantes et savoir dire au revoir, même si c'est difficile, quoi.
Ouais, c'est ça, la difficulté de savoir où tu situes ta zone rouge, quoi. Parce que, que ce soit dans les amis, les amours, je sais qu'il y a très bien des gens de mon entourage qui vont pas du tout être, disons, aussi engagés et qui, voilà, vont vraiment partager les mêmes valeurs que moi, peut-être plus ou moins, disons, il y en a plus, il y en a d'autres moins, mais disons que pour moi, il y a un genre de minimum syndical, en fait, et que, en fait, ça m'empêche pas, dans les moments, ça veut pas dire que je suis parfaite, hein, parce que moi aussi, j'ai plein de trucs sur lesquels me reprendre et tout, je dis pas que, genre, je vois les défauts de tout le monde et que je suis là en justicière, c'est pas du tout ça, mais disons que, genre, dans mes groupes de potes, je suis connue comme la meuf, qui est le plus obsédée par ces questionnements-là, tu vois. Et donc, c'est vrai que souvent, les gens, ils vont prendre un peu pour la chieuse de base. C'est la meuf qui va toujours dire « Ah, mais ça, gna, gna.
Ça, c'est trop simple. »
Oui, voilà. Et puis, du coup, c'est vrai que des fois, c'est nul à porter comme rôle. Mais après, je m'en fous parce que, comme je dis, je fais la balance. Des fois, je me rends compte que ça sert à rien. Je me dis juste « Bon, voilà, je vais faire comme si de rien n'était. » Et cette personne-là, si on se retrouve seule face à face, ben, je pourrais lui dire « Écoute, tu sais, l'autre jour, tu t'es peut-être rendu compte, mais en vrai, ça a une portée, ce que tu dis, ça peut être hyper violent, et puis tu te rends pas compte que ça peut l'être aussi même pour les gens qui t'entourent directement. » Je pense typiquement, tu sais, j'étais dans une soirée avec des potes, et j'ai une amie qui a la même morphologie que moi, et qui commençait à dire qu'elle se trouvait dégueulasse parce qu'elle avait pris 3 kilos, et qu'elle était vraiment grosse, etc. Alors qu'on a une amie qui, pour le coup, est grosse, et qui a entendu ça, et je pense que c'était tellement violent pour elle d'entendre ça, parce qu'elle voit quelqu'un qui fait genre 15 kilos de moins qu'elle, et qui est en train de dire qu'elle se trouve dégueulasse et tout, enfin, c'est affreux. Et en fait, cette amie-là, justement, qui se plaignait de son nouveau poids, sur le moment, c'était vraiment pas approprié que j'essaye de lui dire quoi que ce soit, et je voyais bien que mon amie grosse, pour le coup, elle était dépitée, elle voulait même pas lui parler, quoi. Et j'essayais de lui reparler après coup et de lui dire, tu sais, tu mesures pas la portée de ce que tu dis, quoi. Genre, tu te rends compte qu'en fait, tu vis en communauté, genre, t'habites pas tout seul, comme un ermite à la montagne qui parle à personne. Enfin, genre, je veux dire, à partir du moment où tu côtoies des gens au quotidien, au travail, dans la famille, dans les amis, peu importe, juste, ça fait pas de mal des fois, juste de tourner cette fois la langue dans sa bouche, quoi. C'est hyper dur de réussir à mettre ça sur la table sans passer pour justement la chieuse de base.
Ouais, c'est un peu ce que tu me disais quand tu disais que t'es passé un peu de la réflexion sur l'individu, comment se trouver soi, à la communauté, comment évoluer dans un tout, parce que là je trouve que ça se ressent beaucoup dans ce que tu dis, et je pense que c'est vachement cool comme réalisation et comme combat, parce que c'est vrai qu'on a tellement tendance à penser à soi avant tout.
Puis à nos petites émotions, nos petits problèmes.
Ouais, en fait, c'est ça. Je trouve ça. Enfin, c'est un message que je partage beaucoup, tu vois, de prendre le pouvoir de sa vie, parce que je pense qu'on doit faire les choix pour soi avant tout. Mais il faut pas occulter la considération de l'autre, en tout cas dans nos paroles, quoi. C'est plus. Là, t'as raison, quoi. C'est en fait juste considérer qu'on peut blesser des gens
et que, quand c'est pas notre intention,
si on peut l'éviter, c'est ça.
Et même quand on veut pas du tout le faire, des fois, c'est juste inévitable, quoi, parce que. On n'a pas forcément conscience de toutes ces dynamiques-là. Et du coup, c'est vrai que moi, parfois, il y a des amis qui sont allés trop loin. Et disons que si ces événements étaient arrivés bien avant, je l'aurais sûrement accepté en mode « ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave ». Alors que maintenant, en fait, si ça me fait chier et qu'il n'y a pas moyen qu'on se règle nos comptes là-dessus, et ben c'est simple, en fait, tu dégages, quoi. Et puis, en fait, tu passes pour vraiment quelqu'un qui est complètement extrémiste, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça peut aider juste à orienter ses relations, quoi. Comme pour tout dans la vie, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans cette dynamique-là. Genre, juste parfois on évolue, on grandit, il y a des trucs avec lesquels on n'est plus d'accord. Nos potes, ils n'arrivent pas à nous suivre là-dessus. Et puis, bah, tristement, ça prend trop de place dans la relation. Donc voilà.
Ouais.
Mais je pense que l'amour qu'on porte à quelqu'un et puis la possibilité d'échange, elle joue beaucoup. Parce que tu peux très bien aimer quelqu'un très fort, mais en fait, qui en a rien à cogner du tout de ce que tu peux bien penser, ce que tu peux bien ressentir. Bah, mais si tu l'aimes très fort, peut-être ça collera pas.
Ouais.
Alors qu'il y a des gens, peut-être que tu vas moins les aimer, mais tu sais qu'il y a quand même la marge de manœuvre de pouvoir discuter, essayer de prendre le temps pour ça et tout. Mmh. Et que même s'ils vont pas être forcément d'accord avec toi tout de suite,
d'esprit,
au bout d'un moment, ils finiront par comprendre ton point de vue. Mmh. Et là, je parle à nouveau comme si tout le monde devait s'adapter à mes valeurs. C'est pas ça. C'est juste que, disons, sur ces thématiques-là, c'est vrai que... Dans mes cercles, voilà, je fais souvent partie de ces gens-là qu'on considère comme « Ah oui, mais bon, toi, de toute façon, tu bouffes ça toute la journée. » Et en plus, c'est vrai, genre maintenant, c'est même l'objet de mes études et tout, donc voilà. Mais sur d'autres sujets, c'est moi, en fait, qui est dans cette posture-là, et que je m'ouvre, et que je dis... Quand quelqu'un va me dire « Ouais, écoute, ça colle pas, cette réaction-là, ça va pas, etc. » je le fais, tu vois. Genre, parce que c'est juste pour pas montrer que c'est complètement unilatéral, pas du tout.
Ouais, et encore, même si ça l'était, en fait, j'ai envie de te dire, pour moi, on doit tendre vers l'ouverture d'esprit. Donc, tu vois, à partir du moment où c'est toi qui, on va dire, est la plus ouverte d'esprit et que tu essaies juste de montrer aux gens en quoi leurs comportements peuvent être toxiques ou voilà, malveillants sans le vouloir, tu aides, quoi, au final. Donc voilà, comme tu dis, après, on n'a pas la science infuse sur tous les sujets, mais en tout cas, toi, sur les sujets des discriminations, t'es quand même assez, du coup, au courant. Et du coup, ça me ramène un peu à quand tu m'as dit que t'avais fait 2 années sabbatiques après ton bac. D'ailleurs, c'est pas le bac en Suisse.
Non, mais c'est un peu l'équivalent, la maturité.
Voilà, je cherchais le terme. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu d'abord prendre du temps pour toi, j'imagine, avant de te lancer dans les études? Est-ce que t'étais un peu perdue? Comment ça s'est passé, on va dire, une fois que tu as eu ta maturité?
En gros, ici, quand tu as la matu, l'avantage, c'est que tu peux prendre tout le temps que tu veux avant d'aller à l'université. Genre, c'est un papier, en gros, si je veux, 10 piges plus tard, je peux y aller, quoi. Donc, c'est vraiment pas, il n'y a pas de délai, de quoi que ce soit. Et c'est l'avantage, c'est que du coup, tu bosses pendant des années, tu as ton petit papier, et puis après, soit tu continues à bosser et être dans cet engrenage, soit tu prends le temps. Et moi, j'étais trop sous pression, en fait, quand j'étais en cours, parce que j'avais vraiment l'impression que mon cerveau, il faisait jamais de pause. J'en avais besoin. Et puis, j'ai décidé de faire des années sabbatiques parce qu'en fait, je voulais bosser pour avoir de l'argent et pour partir. Et c'était une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien. À cette époque-là, je fumais beaucoup de joints aussi. En fait, pendant ces 2 années, c'était plus boulot défonce, et puis c'était un peu ça que je faisais, quoi. Après, je me consacrais plus à ma chaîne, du coup, forcément, et c'était cool parce que c'est là où vraiment j'ai pu investir du temps et de l'énergie à faire ça. Et puis, je suis partie à plusieurs reprises et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était super cool. Et je suis pas partie avec des gens en particulier ou quoi, c'était vraiment juste moi qui avais envie de sortir de ma bulle de béton, quoi.
Ouais.
Et puis, même si je savais que déjà que de base, à peu près, les choses qui me plaisaient, j'étais quand même pas tout à fait sûre de où je voulais aller. Je voulais faire de l'art. Je me suis inscrite à la Haute École d'Art et Design. Je suis allée au rendez-vous, j'allais être prise. Et au dernier moment, j'ai dit que non. J'ai flippé, je sais pas. Je me suis pas reconnue, en fait, dans l'école. Ouais. J'avais l'impression de rien avoir avec les gens qui étaient là-bas et tout. Et, alors que j'adore ça.
Ouais. C'est quelque chose que tu regrettes ou...
Non, je le regrette pas du tout. Je suis très contente d'être là où je suis là.
Ouais.
Mais ça me manque quand même de dessiner, d'être dans ce truc très créatif. Donc c'est vrai que c'est un gros vide dans ma vie, ça, par contre.
En fait, ça m'intéresse parce que c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est juste... Tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi? Ou est-ce que c'est la peur d'être différente et de pas se reconnaître peut-être dans le schéma des élèves qui y étaient, qui en fait parfois peut nous bloquer et peut faire qu'on va pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Il y a toujours un peu cette dualité.
Je pense qu'à tort, j'ai beaucoup d'a priori sur cette école et sur les gens qui y étaient, parce que j'avais vraiment l'impression d'arriver à rien à voir avec eux. C'est comme si je les glorifiais de fou. Genre, je me disais, mais ces gens ont trop de talent, ils sont trop en fait, et moi je suis pas assez, et du coup ça m'a un peu fait ce truc d'imposture. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Alors qu'ils étaient chauds, ils m'ont dit, ouais, nous on est ok, quoi, pour que tu sois là, faut juste qu'on fasse un dernier entretien et tout. Et moi j'ai paniqué, quoi. Je me suis dit, mais en fait.
Je suis pas à la hauteur, quoi, le syndrome un peu de l'imposteur.
Ouais, je crois que je me suis juste sentie pas capable, et du coup je suis pas allée, et puis petit à petit j'ai commencé à réfléchir à d'autres options. Et j'ai découvert ce que c'était la sociologie, et j'ai remarqué qu'en fait ça rentrait tout à fait dans dans la direction qui me plaît à moi, déjà de base sans aller à l'école, quoi, ouais. Genre juste mes pensées. Et je me suis dit, bon, bah, tente la socio, et au pire, bah, j'hésitais entre psycho, philo, socio, un peu ces choses-là. Et j'ai quand même essayé la socio, et en fait, c'est ce qui me plaît le plus. Franchement, j'adore mes études, je trouve que je suis exactement là où je dois être, et je regrette pas du tout.
Ouais.
Mais c'est vrai que, comme j'ai pas le temps, parce que bah, voilà, maintenant j'essaie de vivre de ma chaîne, je fais mes études à côté, j'ai une vie d'adulte responsable, tout ça, ben, j'ai plus vraiment le temps de créer, d'un point de vue artistique, disons.
Ouais.
Ok, je fais mes vidéos et tout, mais c'est pas le même processus créatif.
Ouais.
Et du coup, c'est un gros vide dans ma vie, ça.
Ouais, donc, mais parce que c'est vrai que j'allais te demander, ben, pourquoi tu peins pas quand même, parce que. Bah, on n'est pas obligé d'être en école d'art pour faire ce qu'on aime, mais t'as raison, le temps c'est tellement.
L'énergie de cerveau aussi. Genre, j'arrive pas à bien répartir l'investissement que j'ai dans les choses. Et du coup, je suis des fois. Parce qu'en vrai, dessiner ça pourrait juste me vider la tête et puis me faire du bien. Mais c'est vrai que je me mets beaucoup de pression aussi là-dessus. J'ai envie de faire des trucs bien, finis, voilà et tout. Et du coup, c'est quand même aussi de l'investissement et j'ai pas cet investissement ni ce temps.
Bah, alors, c'est peut-être une idée que tu n'utiliseras pas, mais en fait, je me dis parfois, en tout cas, moi je suis un peu comme ça. Bah, en fait, par exemple, je vais pas me sentir. Je vais me dire que j'ai pas le droit de prendre du temps pour faire un truc que j'aime si entre guillemets, c'est pas productif. Tu vois, moi, j'ai un peu ce truc de vouloir mettre mon temps à bon escient. Et du coup, tu vois, je me dis, bah. Peut-être que si t'avais une série sur ta chaîne ou une chaîne d'art, bah en fait là, tu reviendrais parce que tu te dirais, bah en fait, je dois faire ça. Enfin, parfois, le fait de s'imposer des contraintes va faire qu'on va se dégager du temps qu'on serait pas dégagé sinon parce que c'est un peu un guilty pleasure. Enfin, si t'es comme moi, on a un peu ce truc où on va dire que bah on a un message à passer et que c'est plus important de le passer que de s'octroyer du temps pour quelque chose qu'on aime bien faire, tu vois.
J'ai pensé à part ça de faire des vidéos dans lesquelles je montre comment je dessine et tout machin, mais à nouveau ça rajoute de la difficulté parce que ça me demande du coup de devoir gérer une caméra en plus de gérer les outils que je vais utiliser et
ouais,
tout, et puis
ouais.
Et du coup j'y trouve plein d'inconvénients et d'un autre côté je me dis que ça pourrait être super cool, mais c'est vrai que j'ai déjà pensé.
Faut après, que tu t'écoutes, hein, c'est peut-être pas là aujourd'hui, c'est pas le moment, tu vois.
De toute façon, je me dis, je sais que c'est toujours là, ma petite flamme intérieure, elle existe, genre c'est pas. Je sais que quand disons que les circonstances s'atténuent un peu, peut-être que j'ai plus de temps en dehors des cours, que ma chaîne fonctionne peut-être un peu mieux, etc. Là, j'aurais sans souci cet élan à nouveau. Mais bon, après, c'est vrai que ça me manque.
Donc, ouais, je comprends. Faut pas se foutre la pression. Mais, Et quand est-ce que tu t'es dit qu'en fait, YouTube, ça pouvait devenir une carrière pour toi et que c'était ce que tu voulais faire, enfin voilà, ce à quoi tu voulais te consacrer.
Ben en fait, si tu veux, j'ai travaillé en caisse en tant qu'étudiante, en plus de faire mes vidéos. Les revenus de mes vidéos cumulés aux revenus de la caisse me donnaient une situation genre confortable pour une étudiante et l'opportunité de vivre dans cet appartement avec mon chéri, mais je savais très bien que je pouvais pas me contenter de mes vidéos parce que moi je vis que grâce aux vues en fait.
Ouais, vu que tes vidéos sont jamais monétisées, c'est ça?
Alors mes vidéos sont monétisées, mais des fois j'ai des grosses galères parce qu'en fait, si tu veux, souvent mes vidéos vont être démonétisées au départ,
dès
la publication, et quelques jours plus tard, il faut que je demande, enfin voilà, faut que je demande la vérification manuelle et qu'on accepte et qu'après elles soient remonétisées, mais du coup entre temps, bah j'ai perdu les vues que je pouvais être rémunérée pour ça. Et heureusement, c'est pas le cas sur toutes mes vidéos, mais c'est vrai que comme je sais qu'il y a pas mal de thèmes que j'aborde qui sont susceptibles de tomber dans ce truc, ou même d'être juste démonétisé tout court, genre même après vérification, et ben ça me pose problème parce que ben, j'ai pas envie de dépendre d'un revenu qui soit aussi instable. Et en fait, petit à petit, en faisant ma petite vie comme ça, je me suis rendu compte que ben, quand même. Si j'arrivais à faire des vidéos qui intéressent vraiment les gens et de faire régulièrement, bah peut-être que j'arrivais à subvenir à... Enfin, en tout cas, d'être dans un mode de survie, disons. Genre, j'ai assez pour payer mon loyer, mes factures, pour payer les courses. Mais du coup, je me suis dit, bah, si j'arrête la caisse, je pourrais avoir juste assez pour les trucs de base. Et puis au pire, je me démerde, quoi. Genre, je ferais d'autres trucs, je trouverais un moyen. Et puis si je vois vraiment que je galère, bah, je retrouverais un boulot de job étudiant sans souci, quoi. Genre, je suis pas contre ça, disons. Puis j'ai la chance, je pense, être hyper privilégiée là-dessus parce que je sais que je pourrais retrouver du boulot facilement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes pour plein de raisons. Et du coup, comme j'ai ce confort-là de me dire, bah, au pire, je retrouve du boulot et puis ça ira, et ben, je me suis dit, bah, tu sais quoi, lâche la caisse et consacre plus de temps à YouTube, tu feras faire plus de vidéos plus régulièrement. Et puis à côté tu feras quelques opérations de style aller faire des ateliers. On a fait déjà des tables rondes dans des écoles avec d'autres personnes qui parlent des sujets dont je parle aussi sur ma chaîne et tout. Et voilà, c'est un peu ça aussi, des compensations, disons, pour aider à augmenter un peu mon revenu.
Ouais,
voilà.
Mais c'est dingue quand même, je trouve que tes vidéos soient démonétisées alors que tu parles de sujets où juste tu aides les gens. Enfin, je sais que ça nous est arrivé avec Julie de 12 février. Mm-hmm. Voilà, par exemple, sur les vidéos où je vais parler des complexes, tu vois, ils vont me dire dès le début, attention, cette vidéo n'est pas appropriée pour tous les annonceurs. Mmh. Et en fait, on se disait vraiment, genre, il y a un problème, en fait. C'est-à-dire que des filles qui vont faire des vidéos sur des régimes hyper toxiques, hyper nocifs, ou qui vont faire des booty workouts, ou en fait, ça peut être perçu comme vulgaire, et du coup, peut-être que ça convient pas à tous les annonceurs. Elles vont être monétisées, il n'y a pas de souci.
Mais quand on prend... Parce que c'est les annonceurs, c'est pour vendre, à partir du fait du contenu où tu vends des trucs, c'est pour ça que ça marche.
Mais après, elles vont pas forcément vendre quelque chose si elles parlent de...
Non, mais elles pètent le business de personne.
Putain, c'est triste.
C'est ça, le truc, en fait.
Moi, je pensais que c'était qu'en gros, ils te disaient que les complexes, non, c'était pas adapté à tous les annonceurs.
Oui, mais parce que quand tu parles des complexes, tu vas critiquer des marques qui jouent sur des complexes, qui capitalisent dessus, tu vois.
Putain.
Non, mais c'est ça. Si tu dis « complexez pas sur votre poids », bah, toutes les marques qui visent à faire que tout le monde maigrisse, bah, elles vont se dire « bah non, non, enfin, tu vois ce que je veux dire ?» C'est pareil pour l'épilation. Imagine que Vite fasse une publicité sur mes vidéos où je dis « arrêtez de nous épiler ». C'est la logique capitaliste, tout simplement.
Putain, c'est très dérangeant.
Tu parles d'un truc qui va contre la logique de consommation et puis ça va pas du tout, quoi. Et même des sujets qui sont considérés comme un peu trop politiques, un peu trop ça. Enfin, je veux dire, moi j'ai une vidéo sur les poils, c'est démonétisé, tu sais.
C'est incroyable.
Alors que je parle de rien de particulier.
Et même après vérification manuelle, ils t'ont...
Ouais, ma vidéo 1 million de vues sur le soutif, qui est la seule vidéo que j'ai à 1 million de vues, elle est démonétisée aussi. Alors que je dis rien du tout de particulier. Genre, je parle juste du fait de pas porter de soutien-gorge, c'est pas la mer à boire.
Mais
tu vois, on parle de sein, ça va pas. On parle de non-consommation aussi. Bon. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que d'un côté, ouais, c'est complètement con de me faire démonétiser pour des trucs comme ça, mais d'un autre côté, quand on réfléchit à la logique qu'il y a derrière et que qui met l'argent, en fait, bah c'est des pubs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah que t'achètes des trucs et que t'ailles dans leur sens. Et puis si tu vas pas dans leur sens, bah ils sont pas contents.
Ouais, très problématique.
On peut comprendre qu'ils veuillent pas nous payer, du coup. Mais du coup, c'est chiant parce que ça oriente forcément la création de contenu.
Ouais.
Et ça demande...
Bah, si c'est... Ouais, en fait, ce qui est problématique, c'est après, tu fais en sorte de rentrer dans le moule alors que c'est un peu te faire violence. Et j'imagine que toi, c'est pas ton cas, mais malheureusement, ce serait peut-être le cas d'autres créateurs de contenu, quoi.
Bah, moi, j'essaie quand même de diversifier ce que je fais pour pas être constamment un peu sur la sellette, de me dire, bon, bah, si je parle de ça, je sais que ça va y passer. J'essaie de faire des trucs où, voilà, je sais que ça va passer et que ça ira. Et puis des fois j'ai des bonnes surprises, hein. Des fois je me dis ça va être démonétisé et en fait pouf ça marche, donc je suis contente. Et puis d'autres fois je comprends rien du tout, je me dis mais comment c'est possible. Voilà, donc bon, pour l'instant disons par rapport au niveau de vie que j'ai, dépenses que j'ai et tout, bah ça va, j'arrive à être dans le strict minimum disons, mais bon à terme j'aimerais être un peu plus stable quoi dans mes revenus et de pas être paniquée à chaque fin de mois, de me dire est-ce que si parce que je sais pas si je tombe malade et que je peux pas produire de vidéos, si je suis de mauvaise humeur pendant, enfin que ça va pas psychologiquement ou peu importe, bah après je fais comment.
Et c'est voilà. Quelque chose auquel tu penses ou est-ce que t'as des pistes de choses que t'aimerais mettre en place, enfin où tu préfères voir en fonction et t'écouter quoi?
Pour l'instant je fais un peu avec quoi, genre je me dis juste essaye de prendre de l'avance, tu taffes et comme ça t'es un peu sereine là-dessus. Après, j'habite quand même avec mon chéri, je sais que je serais pas complètement laissée à l'abandon si ça marche pas. Je sais que j'ai une famille aussi qui pourrait m'aider si jamais, donc c'est vraiment genre tout ça est fait de façon réfléchie quoi, c'est pas juste en mode oh là là on va tester et puis si jamais ça marche pas c'est la grosse merde et puis genre non ça va tu vois, mais je pense qu'il faut juste que ok là la machine elle a lancé et il faut vraiment que j'essaye de la faire marcher. Et je dis pas ça dans le but de faire plein de thunes ou quoi, mais juste j'ai envie que ça marche dans le sens où j'ai envie d'avoir ma crédibilité, que les gens me contactent pour faire d'autres activités grâce à ma chaîne, ce qui est déjà le cas. Genre il y a le DIP, département d'instruction publique, qui m'a déjà payé pour faire des trucs avec eux. Quand je fais des tables rondes dans les écoles, on me paye aussi. Quand je fais des ateliers à l'hôpital pour des jeunes patients qui ont besoin de se changer les idées avec un atelier culturel, on va me payer. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça qui font que bah en fait je veux faire marcher ma chaîne parce que je veux que ma chaîne elle prenne de l'ampleur
et que ça permette de porter ton message encore plus loin.
Voilà,
en fait,
et que ce soit juste le tremplin pour que d'autres gens me découvrent et se disent tiens c'est cool cette fille, elle fait ça, on pourrait travailler avec elle. Donc c'est plus ça en fait.
Et est-ce que du coup tu t'es imposer entre guillemets une routine de travail, enfin comment tu t'organises vu que t'es encore étudiante entre bah, tes projets et tes études?
Ben j'essaie d'être organisée en pour les études, juste en essayant de faire les trucs à temps, quoi. Ouais. Genre, si j'ai des lectures pour mes cours, j'essaie de les lire, je vais en classe, je prends des notes, j'essaie d'être vraiment là, quoi, pour pas prendre de retard. Maintenant, c'est pas toujours simple parce que, des fois, je peux pas être en cours parce que je fais des trucs pour YouTube à côté et tout. Et donc, je prends un peu de retard, mais c'est pas dramatique. En ce qui concerne mes vidéos, j'essaie de poster deux fois par semaine. Alors, cette semaine, j'ai fauté. Alors que ça fait quand même 2 mois que je me tiens à ce rythme-là, mais ouais. Juste parce que, genre, je me suis mal organisée, c'est pas grave. Mais sinon, j'arrive à tenir 2 vidéos par semaine. Puis c'est cool parce qu'en fait, le contenu que je fais sur ma chaîne, il est genre un peu inépuisable. Parce qu'en fait, je parle juste de ce qui se passe à un moment donné dans ma vie.
C'est trop triste qu'il y a tellement d'inégalités, oui, d'injustices, qu'il y a toujours un truc à dire.
Ouais, c'est ça. Genre déjà parler de sujets sur la société, c'est inépuisable. Ouais. On peut aborder 10 000 trucs. Et même si je parle juste de moi, de ma vie, de mes expériences personnelles, de mes émotions, de mes trucs, en fait, j'ai juste à parler des trucs sur le moment, en fait, des trucs auxquels je suis confrontée.
Ouais.
Et du coup, ça, c'est cool parce que ça va pas. Parce que du coup, je me mets pas de pression à me dire qu'il faut que je trouve des idées ou quoi. Genre, c'est vraiment un peu.
Toujours dans l'intime au final, quoi.
Alors, j'ai des idées stockées quelque part et tout, mais c'est vrai que voilà, pour ça, je me fais pas de soucis. Et après, disons que je fais tout seule. Donc, en fait, je profite quand mon chéri il est pas à la maison et que moi j'y suis de filmer le plus possible. Après, je marche beaucoup au feeling, donc il y a des jours où je vais être seule à la maison toute la journée et puis je vais rien tourner parce que j'ai juste la flemme.
Ouais.
Puis après, mes vidéos sont assez longues, mais c'est pas le montage qui dure 15 heures, quoi. Donc ça va très bien, c'est pas parce que moi je fais pas des trucs très, très élaborés. Mm. Et donc a priori, j'arrive à me tenir à ce rythme et ça se passe bien. Après, j'ai pas de procédé en particulier, quoi. Genre, je fais la même. Enfin, je pense que ma manière de faire en 4 ans, forcément, elle a changé, mais elle se ressemble beaucoup quand même.
Ouais.
Alors, c'est toujours ce côté allumer la caméra, raconter des trucs.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'allumer la caméra il y a 4 ans
Alors, ma toute première vidéo qui est plus disponible sur ma chaîne, c'était une réaction par rapport à un tag qui s'appelle « Ce que je pense des youtubeuses ».
Ouais.
Et c'était un tag, je me souviens, qui est... Alors, mais ça m'a tellement saoulée parce qu'en fait, je voyais... déjà, il y avait presque des meufs qui faisaient ce tag. Et qui y avait des questions qui demandaient des trucs un peu cool, genre qu'est-ce que tu penses des youtubeuses comme ci, comme ça, laquelle te plaît le plus, laquelle est plus forte en make-up, laquelle est plus ci, laquelle est plus ça. Et il y avait d'autres questions, c'était laquelle t'agace, laquelle fait du contenu qui te paraît nul, des trucs dans le genre, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je voyais plein de meufs sous prétexte de vouloir parler honnêtement et de dire la vérité et d'être cash, qui se permettaient d'être absolument affreuses dans leurs propos parce qu'elle taclait des gens sur l'image en fait qu'ils donnent sur internet, même pas sur un truc très élaboré, c'était vraiment ça fait la cour d'école en mode ah t'as vu elle est comme ci, elle est comme ça, et puis elle je l'aime pas pour ci, pour ça. Et en fait ça j'aimais pas du tout en fait ce truc de meufs qui critiquent des meufs et qui après je veux dire c'est pas ça part pas d'elle quand on intériorise le sexisme et tout c'est on est aussi victime de perpétuer la haine entre femmes et tout parce que nous-mêmes on le subit en fait, donc on le transmet, mais du coup moi ça me dérangeait beaucoup en fait de voir ça, de voir des meufs se tacler sur la gueule quoi, sur des trucs, et puis sur des trucs qui avaient vraiment, moi je trouvais que c'était même pas des critiques pertinentes, c'était vraiment des trucs sur l'apparence, le timbre de voix, le contenu, moi je trouvais que c'était vraiment gratuit quoi, et du coup j'ai fait une vidéo pour partager ce que je pensais, parce que je voyais plein de gens qui partageaient ce qu'ils pensaient, et j'avais tellement envie de faire comme eux. Et ce tag m'a fait réagir parce qu'en fait au bout d'un moment je me suis dit mais arrêtez de faire passer la soi-disant honnêteté, arrêtez de faire passer votre méchanceté gratuite et votre malveillance avec par l'honnêteté
quoi.
Enfin déjà personne n'a demandé son avis, c'est pas parce que c'est un tag que ça veut dire que le monde entier s'attend à savoir ça. Et puis ça apporte quoi en fait. Donc voilà, genre je sais pas, je trouvais ça vraiment nul et ça m'a saoulée, c'est pour ça que j'avais commencé.
Ouais.
Puis après, progressivement, j'ai fait mes petites vidéos pour parler des trucs que j'avais appris et que je voulais partager à d'autres jeunes.
Bah, du coup, il y a deux questions qui mènent à l'esprit. Alors la première, c'est pourquoi cette vidéo n'est plus disponible?
Alors comme beaucoup de vidéos sur ma chaîne, ma manière de m'exprimer, des fois, me convient plus. Il y a des trucs, forcément, comme je t'ai dit, moi je suis dans une déconstruction perpétuelle, donc forcément, même ce que je produis aujourd'hui, dans 5 ans, je le verrai pas comme je le vois maintenant. Et des fois, il y a juste des façons de tourner des phrases ou des messages que je transmets au moment où je fais la vidéo qui sont plus en correspondance avec mes valeurs aujourd'hui, et du coup, que j'ai pas envie de laisser là. Même si je veux quand même laisser une trace de l'évolution, tu vois. J'ai pas envie que les gens arrivent sur ma chaîne en mode vitrine parfaite, où la meuf, elle est née avec tout son savoir. Non, j'ai envie de montrer que bah, j'ai un processus d'évolution, ouais. Que genre, il y a des moments où je me trompe, que je dis de la merde, que bah, genre, c'est bon, c'est ok. Mais des fois, je trouve pas ça pertinent de le laisser, ouais. Et que je trouve que ça illustre pas assez ce que je veux, et donc je vais juste l'enlever. Et cette vidéo, c'était un peu ça, c'est juste parce que, ok, je me plains qu'entre meufs on se tacle sur la gueule, mais en même temps, moi je tacle d'autres meufs aussi, parce que je tacle les meufs qui font ça, et du coup c'était. Et je sais plus exactement ce que je disais dans cette vidéo, mais
ça
voilà.
Ça se ressemblait plus, non, mais je comprends totalement au final, et puis c'est noble de ta part de dire que, bah, c'est. En fait, t'as pas envie que les gens ressortent de cette vidéo avec ce message, parce que voilà, c'est plus ce que tu veux faire passer. Et du coup, bah, ça m'intéresse aussi de savoir. Quelle grande déconstruction t'as eue ? Parce que j'aimerais que les auditeurs et les auditrices là, de cet épisode ressortent de l'épisode bah, en se disant putain, grâce à Carolina, j'ai pu réfléchir à ça et ça. Enfin, tu vois un peu, toi, qu'est-ce que, quand t'as fait ce processus de déconstruction et que t'es encore en train de faire, quels ont, on va dire, été les plus grands wow moments où tu t'es dit putain, mais ça, j'aimerais vraiment que les gens s'en rendent compte, quoi. Que pourquoi est-ce que je m'en suis pas rendu compte avant, on va dire.
Ben, je pense que la notion de privilège, c'est hyper important, parce qu'en fait, si tu veux, pendant longtemps, justement, voilà, je creusais un peu ces questions-là et tout, mais je voulais pas admettre le fait que j'avais des privilèges et que, ben, en fait. Socialement, la position que j'occupais, elle était hyper mieux placée quoi, que pour d'autres personnes, et que forcément ça impliquait que moi aussi j'ai des comportements discriminants envers d'autres gens, et c'était très dur de réaliser ça parce que je voulais pas voir le. Enfin, tu sais, c'est le fait de se dire ah ok, la société est faite comme ça, tout le monde est concerné sauf moi. Genre, tu peux pas admettre que moi aussi, genre, bah forcément, j'ai des trucs à remettre en question.
Ouais.
Je pense que le fait de se rendre compte de ce que ça veut dire avoir des privilèges, et de se rendre compte qu'il y a plein de caractéristiques sociales sur lesquelles on peut essayer de voir si on a des privilèges ou pas, et que ça va, oui, honnêtement, influencer plein de choses dans notre manière de réagir au monde, nos relations avec les gens et aussi nos opportunités. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant longtemps, notamment parce que je suis rentrée dans le monde de YouTube par la voie du développement personnel, mais j'étais hyper jeune, du coup j'avais pas conscience de toutes ces choses, j'étais un peu dans ce truc de tout le monde peut y arriver, on a tous les mêmes chances, c'est un peu ce truc, tu vois, de méritocratie,
ouais, je pensais exactement
voilà, genre si t'as des galères dans la vie, il faut juste que développement perso, tu verras, ça ira bien et tout. Et en fait, genre, j'avais pas conscience de l'idée de se dire que bah, y a des gens qui sont dans des situations de précarité, il y a des gens qui vivent des situations de racisme, il y a des gens qui vivent des situations de violence médicale parce qu'ils sont handicapés ou malades chroniques, etc. Donc, et en fait, ça, je voulais pas le voir parce que je parlais à des gens qui me ressemblaient. Enfin, dans ma tête, j'avais l'impression que les gens, c'était moi, en fait.
Que le monde te ressemblait, quoi.
Et en fait, la notion de privilège, le fait de réaliser ça, ça m'a aidé à me dire, mais en fait, si moi je suis capable de dire un truc pareil, ne serait-ce que si moi j'ai le temps et l'énergie dans ma vie de me pencher sur le développement personnel, c'est déjà un privilège. Je veux dire, il y a des gens, de par la position qu'ils occupent dans la société, c'est juste pas possible pour eux, au moment M, d'ouvrir un livre de développement perso et de se dire comment je peux faire pour gérer la vie que j'ai maintenant. Genre, c'est juste, en fait, le changement doit s'opérer ailleurs. Alors, certes, c'est super cool, et je dis pas que le développement personnel c'est nul, bien au contraire, je suis une grande consommatrice aussi de contenu à ce sujet. Mais juste, il faut remettre des fois les trucs dans la réalité et à leur place, et de se rendre compte que juste, des fois, les gens, ça sert à rien de leur dire « foutez-vous un coup de pied au cul, sortez-vous les doigts ». Non, en fait, genre juste, au bout d'un moment, c'est pas là qu'il faut attaquer le problème. Et c'est des trucs qui sont plus de l'ordre de l'institution, du système, du monde du travail, du logement, etc. Et que, bah, en fait, il faut pas tomber dans une rhétorique ou dans une autre, il faut essayer de combiner les deux, quoi. Donner des outils aux gens pour qu'ils gèrent leur vie comme ils peuvent, d'un point de vue très personnel et très individuel, mais aussi se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'extérieur. Quoi.
Ouais.
Et ça a été assez marquant pour moi, parce que j'étais vraiment dans cette illusion de me dire que voilà, si que les gens se plaignent pour rien, que en fait tout est dans la tête et tout, bah non, c'est plus compliqué que ça. Et puis en fait, moi, si je peux le dire, bah c'est parce que je suis une meuf valide, blanche, mince, je suis pas pauvre, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc,
et
voilà,
et ce que je trouve très problématique en plus, c'est que cette notion de privilège n'est pas connue ni comprise en France. Personnellement, je l'ai découverte grâce à des créatrices de contenu anglaises, notamment Florence Given, dont je te parlais. Et c'est vrai que ça m'a aussi ouvert les yeux, parce que, bah, comme tu dis, quand on évolue dans son soi, dans son entourage, dans son milieu, on ne se rend pas compte de tout ce qui arrive. Enfin, tu vois, on a conscience qu'il y a des gens qui sont pauvres, tu vois, bien évidemment, ou qui ont des problèmes bien plus immédiats que les nôtres. Mais ça veut pas dire qu'on se remet nous en question par rapport à ça et par rapport à ce qu'on vit.
Puis on se rend pas compte que nous, si on est là où on est, c'est aussi parce que eux sont là où ils sont et qu'on participe aussi.
Ouais. Et je me souviens dans une vidéo, je crois en plus tu m'as dit que c'était celle sur laquelle t'étais tombée sur ma chaîne, où j'explique ma transformation physique et mentale. Et c'était à l'époque que je découvrais, tu vois, cette notion de privilège. Et donc je m'étais sentie obligée de préciser que voilà, j'avais vécu ces complexes et que je les avais très mal vécu, même si j'étais dans la situation d'une femme blanche, mince, privilégiée, tu vois. Et je me souviens de ce commentaire, tu vois, qui a été laissé par. J'imagine que c'était pas une abonnée, peut-être, mais en tout cas une personne qui est tombée sur ma vidéo. Ta vidéo c'est cool, tu veux aider les gens, mais franchement, dire que t'es privilégiée, sérieusement, comment tu peux oser dire ça, c'est hyper hautain de ta part et tout. Je me suis rendu compte la méconnaissance de la notion de privilège, où quand les gens entendent je suis privilégiée, ils voient ça comme quelqu'un qui se vante, alors qu'au contraire, c'est limite une position d'humilité d'admettre que c'est pas que, enfin, si on en est là, c'est ok, peut-être grâce à ce qu'on a fait, mais aussi surtout grâce à comment on est né, tu vois.
Ouais, il y a plein
Et j'aimerais grave qu'on en parle plus, enfin, tu vois, pourquoi j'ai l'impression que dans chaque épisode, je dis pourquoi on n'apprend pas ça à l'école et genre, je radote, mais putain, c'est vrai quoi. Enfin, du coup, ça permettrait de vivre dans une communauté beaucoup plus tolérante en fait, à partir du moment où on se rend compte que. Bah oui, on est avec des privilèges et que ça veut pas dire qu'on peut pas essayer d'agir pour les changer ou en tout cas pour être
juste
à la hauteur, tu vois, mais
en
avoir conscience.
De savoir se positionner aussi, genre socialement, et de se dire, c'est quel rôle en fait, celui que j'ai là-dedans, tu vois. Genre, c'est toute la problématique de se dire comment je peux soutenir des causes qui me concernent pas sans occulter la voix des personnes qui sont concernées. Parce que, typiquement, si on prend l'antiracisme. Des fois tu peux te dire en tant que personne blanche j'aimerais trop lutter contre le racisme et tout, et tu te rends pas compte qu'en fait tu prends plus de place que les personnes racisées qui sont déjà en train de parler de ça et que tu veux pas les écouter, et parce que t'as ton petit privilège blanc tu veux pas les écouter parce que t'as l'impression que pour toi tout est acquis, etc. Et puis tu te rends pas compte qu'en fait prends en considération ton positionnement dans la société, rends-toi compte qu'en fait si les gens t'écoutent plus toi parce que t'es blanc et pas cette personne parce qu'elle est non blanche, c'est un problème, et que ton rôle, ce serait de donner de la visibilité à ces gens si tu veux vraiment les aider, plutôt que de prendre la parole. Je reviens à ce qu'on parlait sur les voyages humanitaires tout à l'heure dans ta vidéo, où on a l'impression qu'on est là pour sauver les gens, sauver le monde et tout, et qu'en fait, on se rend pas compte que si on est là à pouvoir faire des petits voyages où on va se prendre en photo avec des petits orphelins, etc., c'est un privilège, en fait. Et puis que c'est peut-être pas là où on va avoir le meilleur impact.
Ouais, si on peut vraiment aider.
Donc ça me fait penser à ça. Et je pense que c'est vraiment une notion centrale, en fait, pour essayer de... Enfin, c'est juste réussir à se positionner socialement et savoir, il y a des trucs qui sont de ma propre initiative et qui concernent que ma propre volonté. Et il y a d'autres trucs, en fait, c'est juste... La vie m'a mis là, en fait. Et parce que je suis là, il y a des trucs que j'ai que d'autres n'ont pas. Et à l'inverse, il y a des trucs que j'ai pas que d'autres ont. Et comment faire pour que vivre en accord avec ça, tu vois. Ça veut pas dire de s'auto-flageller et puis de se dire qu'on est coupable de tout et qu'on est responsable de la misère du monde ou quoi. Non, mais juste avoir conscience de ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est un premier pas, déjà, je pense.
Un très bon premier pas. Et du coup, je me demande, peut-être pour les personnes qui veulent faire un second pas, où est-ce que tu les redirigerais, ou en tout cas, toi, qu'est-ce que t'as fait justement pour essayer d'aller plus loin une fois que t'en as eu conscience, tu vois? Est-ce que c'est lire des livres? Est-ce que c'est creuser le sujet? Est-ce que c'est, tu vois, agir par le biais de d'associations? Enfin,
il y a tout ça, déjà. Si toi-même t'es concerné par un sujet, déjà s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses, ça peut aider à déjà mieux appréhender les problématiques. Genre, je sais pas si t'es une personne homo, bi, peu importe, ou trans, ou quoi que ce soit, peu importe, mais que tu ressens que tu vis des violences et que t'as envie de mieux les appréhender et mieux les conceptualiser, en fait, pour mieux y répondre, tu peux très bien t'entourer de personnes qui vivent pareil et puis qui justement peuvent t'aider à comprendre tous ces mécanismes-là, à savoir comment faire pour essayer de, par exemple, sensibiliser nos proches, faire un coming out, ce genre de truc. Bon, là, je prends l'exemple des personnes LGBT, mais en vrai, ça, c'est pour tout. Et puis, typiquement, les associations, tout ça, ça peut aider. Maintenant, moi, personnellement, c'est juste en suivant des personnes qui créent ce contenu, notamment des personnes concernées par les problématiques. Après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes racisées sont conscientes des systèmes raciaux, enfin, des systèmes discriminatoires par rapport à l'ethnie. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes grosses ont conscience de ce que c'est la grossophobie. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont conscience du sexisme. C'est complètement faux, c'est pas vrai. Parce qu'on intériorise aussi beaucoup ces violences-là. Mais ça veut juste dire que les personnes qui ont conscience de ces mécanismes sociaux et qui sont concernées par ces mécanismes, eh ben franchement, elles ont vachement de trucs à nous apprendre, énormément de trucs à nous apprendre. Et même les gens qui ne sont pas forcément au courant de toutes ces dynamiques sociales, eh ben juste à travers leur récit d'expérience, on peut beaucoup apprendre, en fait. Même si, par exemple, je ne sais pas, ma mère, elle a intériorisé beaucoup de misogynie. Et pourtant, quand elle raconte son histoire, on peut apprendre quand même pas mal de trucs de son histoire, même si elle-même va trouver qu'il y a plein de trucs qui sont normaux, qui lui sont arrivés alors que non. Donc c'est d'autant plus fort quand t'as une personne qui a déjà cette conscience là et qui arrive à, en plus de ça, décortiquer tout ce qu'il y a derrière. Et moi c'est vraiment comme ça que j'ai, bah typiquement je pense qu'un des plus un des pans sur lesquels j'ai le plus appris, c'est tout ce qui concerne les discriminations faites aux personnes handicapées et malades chroniques, parce que même moi pendant longtemps j'ai l'impression que c'était inexistant dans ma vie, tout simplement. Genre je pensais même pas à l'existence de ce genre de choses, en fait, et j'étais même pas au courant que ça existait, ce genre de discrimination. Et en fait, c'est en suivant des personnes, je pense notamment à Vivre Avec, qui en fait c'est une personne qui a une chaîne YouTube de, sur laquelle elle parle de, du syndrome d'Ehlers dans l'os et maintenant de transidentité aussi. Et en fait, cette personne, quand j'ai commencé à la suivre, mais j'ai découvert mais un truc, j'étais là, mais waouh! J'aurais jamais vu ça, quoi. Genre, ou je l'aurais vu si quelqu'un de mon entourage avait été concerné, mais alors quand, tu vois? Et petit à petit, bah, j'ai vu d'autres personnes aussi qui parlaient de maladies chroniques, de handicap, etc. Et de validisme, du coup, qui est la discrimination faite à l'encontre de ces personnes-là. Et j'étais là, mais... waouh! Waouh! Juste en suivant ce que ces personnes disaient, leur vie, leur quotidien. Et typiquement, à l'époque, j'avais Twitter, alors maintenant j'ai plus Twitter, mais à l'époque, je suivais aussi au quotidien des personnes qui parlaient de leurs problématiques, et je trouvais ça hyper important d'avoir ce point de vue-là. Alors maintenant, je me suis éloignée de cette manière de déconstruire, parce que je pense que c'est un bon début, entre guillemets. Et du coup, bon, maintenant, vu que je suis à la fac et que j'étudie aussi ça d'un point de vue académique, bah, l'approche est différente, on a accès à d'autres informations, à une autre envergure, une autre échelle, etc. Et ça se complète bien, je trouve. Mais c'est vrai que je pense qu'un bon début, c'est déjà de juste s'interroger auprès des personnes déjà qui en parlent déjà, en fait. Et ça, il y en a plein qui le font, et heureusement, et de plus en plus, en fait. Tu peux vraiment trouver, sur toutes les problématiques qui existent au monde, tu peux trouver des gens s'exprimer là-dessus, et c'est super cool. Et je pense que c'est vraiment... juste, pour une fois, mettre son petit ego de côté et se dire, ok, je vais apprendre, en fait. Et je vais apprendre de la part de personnes qui savent de quoi elles parlent.
Mais c'est, en fait, ça apprend à se mettre à la place de l'autre, au final. Hein. Et est-ce que tu aurais quelques chaînes comme ça à me conseiller? Donc, d'abord, la chaîne Vivre Avec.
Alors, j'ai parlé de la chaîne Vivre Avec, mais il y a aussi... Alors, ça dépend, parce qu'il y aurait sur plein de sujets. En vrai, mais là, si on reste sur les thèmes de la maladie et du handicap, il y a une chaîne qui s'appelle Parmi les récits, qui parle notamment de maladies mentales et de psychophobie, tout ça. Il y a Marina Morello, qui est une jeune femme en fauteuil, qui parle aussi de sa maladie. Elle a la maladie, je sais pas le nom exact, mais c'est la maladie des os de verre. Du coup, elle parle de ça aussi. Pour d'autres sujets tels que par exemple la transidentité, on a la Goupille, que j'ai interviewée sur ma chaîne, c'est la vidéo s'appelle Dans la tête d'Elina. On a Adrienne, comment, je crois que c'est Adrienne de la Vega, qui parle aussi de transidentité, alors je sais pas s'il continue ses vidéos. On a Laura Badler, il y a plein de gens, en vrai j'en ai plein comme ça. Faut juste, je pense que le meilleur moyen, c'est juste d'aller sur mon Instagram et de regarder les gens que je partage. Parce que je partage tout le temps du contenu de d'autres personnes qui font d'autres choses. Et puis, ou même, des fois, dans certaines vidéos, je partage aussi ça.
Ouais, et je crois même dans les abonnements YouTube, je crois que j'avais été abonné et il y avait beaucoup de personnes engagées.
Et puis, par exemple, là, je pense, pour les questions sur l'afroféminisme, il y a une chaîne qui s'appelle K-Hole et Snapshots, qui est hyper cool, que je trouve super intéressante. Et voilà, enfin bref. En vrai, je pourrais en énumérer plein et... Je suis sûre que j'en ai oublié aussi, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà,
je mettrai déjà tout cela dans les notes du podcast. Il y a une question que j'ai vraiment envie de te poser, tu vois, qui est très naïve, mais qui, je me pose vraiment la question, c'est est-ce que t'arrives à ne pas être déprimée face à l'immensité des inégalités, l'immensité des discriminations, tu vois, cette position de « mais c'est trop », tu vois.
Des fois c'était plus, enfin disons qu'avant c'était plus dur que maintenant, parce que comme je t'ai dit avant, j'étais vraiment beaucoup dans la réaction instantanée, l'indignation et tout. Maintenant, genre disons, au bout d'un moment, quand voilà, genre quand tous les jours tu t'informes sur ces trucs, tu finis par un peu prendre de la distance et à réussir à faire un peu la part des choses. Mais C'est vrai que c'est pas toujours simple, notamment là avec le compteur, tu sais, des violences conjugales, des féminicides, ça je sais qu'il y a eu un moment où j'ai un peu craqué quand on est arrivé à la centième.
Ouais.
Sachant que là on parle de femmes en couple hétéro,
ouais.
Ou qui ont, et qu'en fait il y a aussi plein d'autres personnes concernées par le féminicide qui sont pas dans ce schéma là, mais rien que là déjà c'était énorme et du coup j'étais complètement dépitée, genre je me rappelle j'ai passé une soirée à chialer, à me dire que genre je voulais pas vivre dans ce monde de merde et tout, et donc ça m'arrive des fois, tu vois. Mais après je me reprends parce que maintenant j'ai l'impression de faire un truc utile.
Ouais.
Alors qu'avant j'avais l'impression un peu de patauger dans la semoule, tu vois. Genre je me disais je peux rien faire et tout. Là je me rends compte qu'en fait bah alors je dis pas que ma chaîne va changer le monde, mais juste qu'au moins je sais qu'elle a un impact, je sais qu'elle sert à des gens, et je sais qu'il y a vraiment des gens que ça fait réfléchir, et du coup je me dis, je me raccroche à ça.
Ouais,
ça donc c'est vraiment là où ça me permet de sortir du truc. Maintenant il y a un sujet en particulier qui a pour le coup vraiment le ton de me... Mais ça me dépite vraiment, c'est le sujet d'écologie. Je me suis mis 10 000 éloignée du sujet, juste parce que ça me procure trop d'angoisse, quoi. C'est affreux. Et je me dis, bon, je mets déjà mon énergie pour plein d'autres trucs. Je peux pas être sur tous les fronts non plus, et puis ce serait complètement con. Hein. Je pense que ça sert à rien. Et le sujet de l'écologie, je l'ai vraiment mis... Enfin, j'essaye même pas de... Enfin, je m'informe même plus, quoi, parce que juste ça me fout la mort dans l'âme, quoi. Genre, vraiment, c'est ça. Genre, je... Et du coup, des fois, j'essaie de me protéger juste en me mettant à distance de certains sujets et essayer de pas trop mettre d'énergie de cerveau dedans. Après, ça veut pas dire que je bannis le truc, hein. C'est juste que pour l'instant, genre, je pense que je préfère m'occuper d'autres choses.
C'est trop encaissé, quoi.
Et d'avoir. Et parce que. Et on en revient à ce truc de se sentir utile ou pas. C'est juste qu'en termes sur l'écologie, alors là, pour le coup, l'envergure du problème me paraît, genre, d'une ampleur qui est juste impossible à mon échelle à contrecarrer, même avec ma chaîne, même avec le peu d'activisme dont je peux faire preuve. Et ça, je me sens vraiment comme une petite fourmi face à une gigantesque montagne et me dire...
Je vais me faire écraser.
Alors que tu vas me dire, hein, le système patriarcal, il est tout aussi gigantesque, et puis toutes les autres discriminations. Mais disons que j'ai plus l'impression d'avoir... T'as réussi un peu à m'immiscer dans le truc, à avoir un petit peu d'impact et tout. Alors que sur le sujet d'écologie, non, c'est... Vraiment, ça me dépite. Donc voilà, des fois, quand j'y pense, ça me fout dans le mal, quoi.
Ok.
Après, à partir du moment où tu vois aussi que... y a des gens qui évoluent dans leur réflexion, qui t'apportent aussi des choses, des gens qui partagent complètement ton avis aussi, etc. Bah, ça redonne un peu de boost, et puis tu te dis, je suis pas la seule, c'est cool.
On va faire changer les choses.
Genre, ça donne un peu de courage. Et puis, typique, je pense que c'est genre ce qu'il y a de mieux dans les manifs, c'est ça, c'est quand tu vois un manif et tu vois qu'on est tous là pour la même chose. Mais ça donne une force, quoi. Genre, c'est un truc de ouf. Et du coup, j'essaie de participer à des rassemblements, des trucs comme ça et tout, parce que comme ça m'alimente un peu.
C'est contagieux.
Ça peut perpétuer ma flamme, et je me dis, ok, on est motivé, on va le faire, ça va y aller.
Trop cool.
Donc voilà.
Je me demandais aussi, au final, qu'est-ce qui te rend heureuse ?
Dans ma vie de tous les jours.
Ouais.
Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Je pense qu'un des trucs qui me rend le plus heureuse au monde, c'est de pouvoir vivre une vie dans laquelle j'arrive à suivre mes valeurs. Et même si je le fais pas forcément à la lettre, hein, genre je dis pas que je suis un être parfait, il y a plein de trucs que je fais dont je suis pas fière, hein, voilà, mais je sais que globalement je suis alignée maintenant, disons, parce que dans l'environnement dans lequel j'étais avant, j'avais l'impression d'être dans cette restriction et cette
frustration au final, quoi.
Alors que là, genre mon quotidien ressemble à ce que je suis au fond de moi et ça me plaît, j'ai l'impression de faire des choses juste pour moi, d'être à la bonne place et de faire ce qu'il faut. Et ça me rend heureuse, quoi. Après, je pense que aussi, pour contrecarrer tous ces trucs négatifs qu'entraîne le fait d'aborder des sujets sensibles comme ça, c'est les plaisirs quotidiens, quoi. Genre le fait de pouvoir échanger des moments d'affection, d'amour avec quelqu'un, pas forcément un amoureux, hein, mais juste des proches, des amis, de la famille.
Un chat.
Mon petit chat d'amour que j'aime. Et pour moi, ça, c'est hyper important à cultiver. Genre, tous les jours, j'essaie de remplir ma jauge de douceur. Et j'essaie, par exemple, des fois, de passer des appels à des gens que j'aime et que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté et tout. Et c'est des petites choses qui remplissent comme ça. Et on a tendance, des fois, à les mettre un peu au second plan quand on est dans ce truc de travailler, étudier, nanana.
C'est vrai.
Et du coup, c'est juste prendre du temps pour ça.
Ok, trop cool. Bah, du coup, je vais te poser la dernière question du podcast. C'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est compliqué comme question.
Ouais, c'est une belle petite, un beau petit sujet de dissert.
prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est réussir à se faire respecter dans ses valeurs. Genre, à pas se... Ouais, enfin, je sais que c'est pas accessible pour tout le monde, hein. J'imagine bien que c'est plus simple à dire qu'à faire et tout, mais je pense que quand, voilà, on sent ce truc au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'on a notre notion du juste, du bon ou du vrai, et que déjà on arrive à prendre conscience de ça et à quoi ça ressemble, et de se faire respecter en fait. Je pense que c'est ça, juste de pas se dire, de vivre toujours en fonction de la vie de quelqu'un d'autre, de mon père, ma mère, mon frère, mes amis, mon mec pense comme ça ou quoi. Genre de juste réussir à suivre ce que nous, on trouve être pertinent, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et je pense que c'est là où moi, j'ai pris le pouvoir de ma vie. C'est au moment où je me suis dit, mais en fait, non, je pense ça, mes valeurs, c'est ça, et je vais les suivre, et ma vie va ressembler à ça. Et en fait, genre, t'es pas d'accord ? J'en ai rien à faire et je vais le faire quand même. Et que tu sois de ma famille ou pas, que tu sois de mes potes ou pas, je m'en fous en fait. Genre, je suis ce qu'il y a au fond de moi et ce que je sens être juste, et c'est tout. Donc okay. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais...
Ouais, c'est très clair, c'est très puissant. Donc merci beaucoup Carolina d'être venue sur InPower, et merci à toutes les personnes qui là sont encore présentes et nous ont écoutées jusqu'au bout. Ça nous fait très plaisir. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais, ce dont tu parles, on les redirige du coup sur ta chaîne YouTube, La Carologie. Où est-ce que tu veux les rediriger sinon?
Mon compte Instagram aussi, mais bon, après sur Insta je poste pas trop, c'est juste que je poste d'autres types de contenu que sur YouTube, donc ça peut être cool. Et puis c'est tout, Instagram, YouTube, ça suffit.
Ok, ouais, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à voir. Et je mettrai tout ce dont on a parlé dans les notes du podcast. Donc merci beaucoup Carolina,
merci,
et j'espère
à
très bientôt.
Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Carolina. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant @lacarologie et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qu'il pourrait aider et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir en exclusivité les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.